Bonjour David, bonjour à tous. Le premier tour des législatives anticipé toujours à la une de l'actualité. Le RN sera présent en Deux-Sèvres sur les trois circonscriptions. L'analyse dans ce journal du politologue Dominique Breillat. L'association départementale des associations familiales veut davantage se faire connaître du grand public. C'est notamment ce qui ressort de la récente Assemblée Générale. Après une année d'ouverture, le site totalement réhabilité du Rocher Branlant à Largesse connaît un véritable engouement de la part du public, malgré toujours des tracas administratifs pour son gérant. C'est parti pour le festival photographique de Montcoutant-sur-Sèvre, une 14e édition qui a pour invité d'honneur Isabelle Serrault, qui n'est pas une inconnue. 30 ans de carrière, ça se fête, et c'est au festival de Poupée samedi dernier que Pascal Obispo a décidé de célébrer cet anniversaire. Quant à la météo, éclaircies et passages nuageux sans conséquence se succéderont cet après-midi. Politique, donc, pour ouvrir cette édition avec un retour sur ce premier tour des législatives anticipées en Deux-Sèvres. Je vous rappelle qu'il y aura deux duels et une triangulaire. Le Rassemblement National s'est qualifié sur les trois circonscriptions de notre département. Philippe Robin face à Jean-Marie Fievé en Nord-Deux-Sèvres. Mélodie Garraud sera opposée à Delphine Bateau sur la deuxième circonscription. Et Dorothée Champeau s'est qualifiée sur Niort, mais se retrouve en ballotage défavorable face à Nathalie Lanzy et Bastien Marchive sur cette première circonscription. Le se maintient donc au second tour et arrive même en tête sur la circonscription nord-sévrienne avec Philippe Robin, candidat de la coalition LR-RN, qui a surpris tout le monde en se présentant sous la bannière de l'extrême droite et en obtenant le score de 35%. L'analyse du politologue poitevin Dominique Breillat.
Tout est toujours possible dans la mesure où il n'appartient pas au Rassemblement National, mais aux Républicains, et que certains Républicains ont suivi Éric Ciotti. Donc, c'était du domaine du possible. Je dirais que en réalité, c'est une défaite plutôt de la maire de Bressuire qui avait retiré sa délégation à Philippe Robin. Et ce sont les élus, je dirais, traditionnels, là, qui se trouvent un petit peu désavoués.
On parle toujours du Bocage comme un territoire modéré. Est-ce qu'on peut encore le définir ainsi, finalement, avec ces résultats ?
C'est difficile à dire dans la mesure où Philippe Robin n'est pas Rassemblement National. Donc on peut toujours dire, mais non, il est républicain. Et c'est pour ça que sans doute ce jumelage Ciotti-Rassemblement National a pu être efficace. Mais la modération, nous en aurons le résultat seulement dimanche prochain.
Rappelons toutefois qu'à Bressuire, c'est le député sortant Jean-Marie Fievé qui est arrivé en tête, devançant de 5 points le candidat Ciotti-RN Philippe Robin. Sur la première circonscription, celle de l'arrondissement de Niort, Nathalie Lanzy de l'Alliance Nouveau Front Populaire a confirmé sa candidature au deuxième tour. Elle compte sur cet entre-deux tours pour convaincre des électeurs du Rassemblement National de voter pour elle. Mais pour Dominique Breillat, les choses devraient rester en l'état.
Niort, il n'y a aucun risque de voir le RN arriver à l'emporter, puisqu'il est nettement loin, 24%, alors que Bastien Marchive a 40%, Nathalie Lanzy 32,8%, et il n'y a aucune réserve possible, parce que les deux candidats qui sont éliminés, en réalité, ont des scores qui sont vraiment infimes. Donc, en réalité, on peut penser qu'à Niort, l'affaire est déjà jouée.
Alors finalement, on pourrait avoir un département des Deux-Sèvres qui conserve les trois mêmes députés.
C'est du domaine du possible. La seule, à mon avis, la seule interrogation, elle est bien entendu dans la circonscription de Bressuire-Thouars.
Le politologue poitevin Dominique Breillat, interrogé par Fabien Gazeau. Pas de débat sur Colline pour ce scrutin, comme nous le faisons depuis toujours à chaque élection législative. Nous organisons, avec le concours de nos confrères du Courrier de l'Ouest, un débat d'entre deux tours. Il en va désormais différemment. Philippe Robin, candidat LRN, version Ciotti, en effet décliné notre invitation à débattre sur cette antenne. Trop de choses à faire, trop compliqué cette campagne, était un délit de démocratie, argumente celui qui est arrivé en tête sur cette troisième circonscription de Sévrienne. Ce débat en cette élection déterminante aurait pourtant été constructif pour les électeurs et électrices du Bocage-Bressuire et du Toircé, a même d'écouter les arguments de l'un et l'autre des deux candidats qualifiés pour ce second tour. Le député sortant, Jean-Marie Fievé, avait pour sa part répondu favorablement à notre invitation avant même de savoir quel serait son adversaire et nous avait confirmé dès dimanche soir sa volonté de débattre avec Philippe Robin. Le débat public reste un pilier de notre démocratie. Il est dommage que l'un des candidats vous en prive cette année. Le positionnement dans l'échiquier politique de Philippe Robin, justement, qui sera évoqué ce soir lors d'une séance communautaire de l'Aglo de Baie. Rappelle qu'il sera soumis au vote des élus le retrait ou non de sa délégation de vice-président en charge du tourisme. Si cette proposition devait être actée, l'élu perdrait de facto la présidence de l'office de tourisme du Bocage-Bressuire tout en restant conseiller communautaire s'il le désire. À suivre dès demain matin dans cette même édition. Chez le voisin, ce coup de théâtre à Cholet, arrivé second derrière le député sortant de la majorité présidentielle Denis Masséglia, même devancé dans sa propre ville. Gilles Bourdoulex, soutenu par le RN, a annoncé hier soir se retirer, se disant, je cite, écœuré par une campagne électorale nauséabonde qui insulte la démocratie et nos concitoyens, et avance vouloir déposer des recours concernant les illégalités commises par un candidat. Fin de citation. De son côté, France Moreau, la candidate LFI affiliée au Nouveau Front Populaire, qui était arrivée en troisième position et qui avait annoncé dimanche soir jeter l'éponge pour faire obstacle à l'extrême droite, et bien finalement, elle a changé d'avis et a décidé de se maintenir pour le second tour. L'UDAF des Deux-Sèvres tenait son assemblée générale à Saint-Marceau en fin de semaine dernière. L'association départementale, totalement indépendante, est reconnue par les services de l'État pour intervenir auprès des familles. Parmi les objectifs à venir, plus de lisibilité auprès de la population. Concrètement, si aujourd'hui les services sociaux du département, la justice, la préfecture, la CAF ou encore l'Agence régionale de santé, par exemple, n'hésitent pas à solliciter l'UDAF, les particuliers en revanche ont une méconnaissance des services proposés. Pour être plus accessibles, des guichets ont été mis en place, comme l'explique Fabienne Sabourin, présidente départementale de l'UDAF des Deux-Sèvres.
Pour cela, nous avons entre autres un guichet ressources et soutien aux familles qui est là pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces demandes, qu'elles soient téléphoniques ou par rendez-vous. Je pense par exemple le service ISTF qui est information et soutien aux tuteurs familiaux, donc c'est-à-dire des personnes dans la recherche d'une mesure d'accompagnement, tutelle, curatelle, etc. Donc là, nous sommes là, effectivement, pour pouvoir renseigner aussi ces familles-là en amont.
L'UDAF des Deux-Sèvres propose un accompagnement à toutes les familles, aussi bien pour la protection juridique des majeurs que pour la protection de l'enfance, la médiation familiale, l'insertion pour les personnes atteintes de handicap ou encore l'aide aux familles monoparentales. Un autre type d'aide est proposé, l'accompagnement à la gestion de son budget. La directrice de l'UDAF des Deux-Sèvres, Catherine Michon.
Les familles aujourd'hui subissent l'inflation, subissent effectivement toutes ces contraintes économiques et pour le coup il y a énormément de sollicitations, notamment pour les points conseil budget, qui est un dispositif en fait sur lequel on peut accueillir les familles. C'est un accueil inconditionnel pour accompagner les familles sur la gestion de leur budget, sur la réflexion et pour les orienter au mieux vers des partenaires qui pourraient les aider à remonter un petit peu la pente le cas échéant.
L'UDAF des Deux-Sèvres, sachez-le, compte 186 salariés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'énergie. Originaire de Sirières, Anthony Baron, gérant de la SARL L'Homme des Bois, a totalement réhabilité le site du Rocher Branlant à l'Arjas, laissé à l'abandon depuis plus d'une quinzaine d'années. Depuis un an maintenant, le public s'est réapproprié les lieux qui s'étalent sur 6 hectares et demi en libre accès en extérieur. Régulièrement, des soirées guinguettes, séminaires et autres animations y sont proposées dans une ambiance très conviviale, même si le gérant doit toujours et encore faire face à des tracasseries administratives en raison des aménagements réalisés sur ce site classé. Anthony Baron.
Malheureusement, on a quelques bâtons dans les roues de la part de certains services de l'État, mais on s'accroche. On ne laissera pas ce site retomber en désuétude comme avant. Et on fera tout pour le conserver dans l'état actuel, c'est-à-dire protégé tout en restant naturel.
Qu'est-ce que l'on vous reproche, par exemple ?
Eh bien, on reproche d'avoir sauvé des animaux de la mort. On me reproche d'avoir nettoyé le site des carcasses de scooters et des divers autres déchets. Et puis d'avoir mis en place un jardin, d'avoir mis en place des structures de paille pour les enfants. Après tous ces efforts et toute cette énergie dépensée pour faire en sorte que ce site renaisse de ses cendres, c'est toujours un peu décevant de la part des services de l'État de recevoir cet accueil, même si cet accueil-là, au contrario, a été hyper, hyper salvateur du côté des habitants qui nous soutiennent depuis le début.
Depuis le printemps dernier, le site accueille des séminaires d'entreprise, des fêtes de famille, mais aussi jusqu'à ce jour, une vingtaine d'enterrements notamment de vie de garçons et de jeunes filles. Et dès cet été, de nouvelles animations viendront étoffer l'offre, notamment le mercredi soir autour du triptyque concert, grillade, copain.
Oui, ça c'est le nouveau slogan de l'été. On lance les mercredis de l'été, donc des concerts le mercredi soir. On va voir si c'est quelque chose qui peut intéresser les locaux.
Autre nouveauté, une rôtissoire à charbon.
Oui, c'est l'année des cochons de lait. Ça va sentir très bon au Rocher. On lance cette nouvelle activité pour permettre les gros repas de famille d'avoir quelque chose de bien sympa à déguster.
En rappelant quand même que le site est ouvert au public, les extérieurs, on peut venir pique-niquer toujours et encore.
Oui, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours pique-niquer. Alors il y a beaucoup de monde les week-ends, évidemment on ne peut pas garantir qu'il y ait des tables de pique-nique pour tout le monde, mais voilà, il y a de l'herbe, il y a des arbres, donc il y aura toujours un petit coin d'ombre.
Qu'est-ce qu'on vous dit lorsque l'on revient ici ?
Eh bien, que les gens sont contents, que ce soit entretenu, qu'on peut enfin voir la rivière, parce que c'est vrai qu'elle était quand même cachée sous des amas de ronces. Évidemment, les animaux, c'est une super attraction de voir les enfants découvrir les poules, les canards, les petits moutons. En plus, on a des agneaux en ce moment, donc c'est forcément très sympa.
Le premier mercredi de l'été aura lieu demain de 20h30 à 22h avec un concert acoustique autour de Ben Armesen. Le site du Rocher Branlon à Largesse est désormais accessible 7 jours sur 7. Renseignements au 07 65 75 80 52. Trépignant en attendant leurs 10 ans de carrière, les frères Jacquard ont décidé d'offrir un best-of de leurs œuvres. Un expert en détournement, ce trio de musiciens chanteurs propose un show burlesque mêlant musique et humour, performance vocale et improvisation théâtrale, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Une belle soirée en perspective assurée ce mercredi 3 juillet dès 21h sur l'esplanade du château de Thouars. Le spectacle est gratuit et sans réservation. Le festival photo de Montcoutant-sur-Sèvre est lancé. Le vernissage de la 14e édition qui se déroulera jusqu'à la fin septembre avait lieu samedi avec la traditionnelle déambulation devant chacune des séries photos présentées par les photographes eux-mêmes. Un moment privilégié au contact de ceux qui restent généralement dans l'ombre de leurs clichés exposés en grand format et en plein air entre le parc du château de Genève jusqu'à la place de l'église en passant par le parvis de la mairie. Des photographes sélectionnés par les bénévoles avec une volonté de plaire au plus grand nombre. Yann Fourel est l'un des co-présidents de ce festival photographique de Montcoutant.
Avec toujours cette volonté d'avoir une programmation qui soit la plus variée possible. Le but du jeu, c'est que chaque visiteur qui se présente sur le festival, même s'il aime moins le paysage, il aime moins le reportage, qui puisse à un moment donné y trouver son compte et trouver quelque chose qui l'intéresse. Donc on a 12 photographes, 6 femmes, 6 hommes, avec de l'animalier, de l'urbex, c'est de l'exploration de lieux abandonnés, on a du photoreportage, on a du paysage, des portraits, de la reconstitution d'objets à partir de déchets alimentaires. Enfin, il y a vraiment une variété dans la programmation. Les centres d'intérêt de tout le monde sont à peu près comblés, et puis ça permet des découvertes aussi, à la fois sur des sujets puis sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc nous on tient à cette diversité là.
Et le festival photo de Montcoutant met toujours en avant un invité d'honneur. Il s'agit cette année d'Isabelle Serrault qui présente un reportage photo réalisé au Ghana, devenu la poubelle du textile. Le monde entier en effet y envoie les vêtements dont il veut se débarrasser. Le choix d'Isabelle Serrault s'est opéré assez naturellement, d'autant qu'elle y a déjà exposé certains de ses clichés à deux reprises.
Isabelle Serrault, elle a déjà exposé 2 fois dans le cadre du festival de Montcoutant. Elle a eu une année avec des reportages photos qui ont été particulièrement... Elle a remporté des appels à candidature sur des reportages importants. Et puis elle a des thématiques qui nous intéressent aussi. Donc ça a été assez évident finalement, le fait quand la proposition Isabelle Serrault est sortie un peu du chapeau là pour l'invité d'honneur, ça a été vraiment un coup de cœur, je pense, partagé par pas mal de bénévoles du festival. Donc on est très très heureux d'avoir Isabelle tout en haut de l'affiche du festival. Et voilà, pour nous c'est un juste retour des choses aussi au regard de l'implication qu'elle a mise dans ses deux premières venues aussi sur le festival.
Et Isabelle Serrault, justement, vous l'entendrez dans une prochaine édition, comme certains des photographes présents lors du vernissage de l'expo photo de Montcoutant-sur-Sèvre samedi dernier. Une expo à découvrir tout l'été jusqu'au 29 septembre. Pascal Obispo a fêté ses 30 ans de carrière samedi soir à Poupée. Pascal Obispo, débordant d'enthousiasme en retrouvant le théâtre de Verdure. Il était déjà venu au festival en 2013. L'artiste a ainsi célébré ses 30 ans de carrière en reprenant ses plus grands tubes, mais aussi en interprétant des chansons qu'il a lui-même écrites pour des artistes de renom, citons pêle-mêle Zazie, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny. Il était accompagné de 12 musiciens pour une orchestration à la fois explosive, conviviale et chargée d'émotions. Pascal Obispo à poupée, au micro colline de Boris Blais.
30 ans, si vous deviez retenir une seule chanson, ce serait laquelle ? Merci pour ça.
Je me souviens très bien quand j'étais venu la dernière fois, parce que j'adore, comment dire, cette configuration un petit peu amphithéâtre comme ça, c'est vraiment très très agréable de pouvoir voir tout le monde. On a essayé de sélectionner les chansons les plus festivals entre guillemets, soit celles qui font chanter, soit celles qui donnent la pêche, voilà, et qui donnent envie de bouger. On était surpris parce qu'on a senti la pluie. Je m'étais pas rendu compte, mais je ne voyais absolument pas qu'il pleuvait vraiment autant. Merci à tous les personnes qui sont restées, parce que c'est vrai qu'avec cette pluie-là, faut vraiment avoir envie de voir un concert et de passer un bon moment. Donc merci à tout le public, voilà, c'est un super festival, ça nous file la pêche, merci beaucoup en tout cas.
Pascal Obispo, samedi soir, à l'issue de son concert au festival de Poupée, festival qui se poursuit ce mardi soir avec Grand Corps Malade sur la scène du Théâtre de Verdure à Saint-Malo-du-Bois. Toute cette semaine, en fin d'après-midi, Colline vous offre vos invitations pour aller applaudir Zao de Sagazan le jeudi 11 juillet à Poupée. Le concert se jouera à guichet fermé et nous disposons donc des toutes dernières places et nous vous les avons réservées.